La prière du Notre Père que nous connaissons bien commence par que ton nom soit sanctifié, puis que ton règne vienne. Il n'est pas là parlé de royaume, mais de règne de Dieu. C'est donc quand même deux choses différentes. Et autant le royaume peut faire référence à un territoire, à une autorité évidemment, également, mais à une superficie, enfin un territoire qui est sous l'autorité de quelqu'un. Autant un règne parle là d'une personne qui règne, qui a pouvoir, qui a autorité sur les uns et les autres. Et nous prions pour que ce règne vienne. Cette notion d'autorité est essentielle dans la Bible. Non seulement dans la Bible, mais dans nos vies également. C'est la deuxième phrase du Notre Père. Dans notre vie de tous les jours, si on y réfléchit bien, énormément d'aspects de notre vie, ce que nous faisons, de nos décisions, sont soumises à des autorités. Si nous y pensons bien, et c'est une question que je vous pose, à quelles autorités dans nos vies doit-on obéir? Il y en a plein. Hein. Pardon? L'État, alors plus particulièrement, parce que l'État c'est... Ouais, mais c'est les lois. Alors, je vais vous demander d'être un peu plus précis dans votre réflexion. Je ne parle pas là de règles à respecter, mais d'autorité ou de personnes à qui il faut obéir. La police, les parents, merci. Les patrons également. Ah, ça, ça commence à sortir là. Les responsables. Oui, mais soyons spécifiques. Quels responsables? Dans quel cadre? Quels responsables? Les responsables hiérarchiques, effectivement. Y en a-t-il d'autres? Votre femme? Ou alors, je n'aborderai pas le sujet parce que même si c'est moi le chef de la maison, j'ai pas envie de dormir sur le canapé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Son mari? Pardon? Le Seigneur, merci d'y avoir pensé. Le Seigneur, absolument. On pourrait effectivement réfléchir comme ça et puis remarquer que finalement dans nos vies, beaucoup, beaucoup de temps de notre vie, en fait, nous faisons des choses sous l'autorité d'autres personnes. Et nous le faisons naturellement, ça ne pose pas de problème. Et dans ces différentes autorités, parfois, il peut y avoir éventuellement un conflit d'autorité. Nous avons une autorité qui nous demande quelque chose et puis une autre autorité qui nous demande autre chose. Alors, je ne vais pas vous demander si cela vous est déjà arrivé, mais ça peut être le cas. Imaginons, alors ce n'est pas le cas en France aujourd'hui, mais imaginons une autorité qui soit inique et qui demande des choses que Dieu ne supporte pas. On doit alors faire des arbitrages dans nos vies. À quelle autorité doit-on répondre? Il y a donc en fait plein de ces notions d'autorité dans nos vies. Et ce matin, évidemment, je ne vais pas parler de tout, parce qu'il faudrait... ce n'est pas une prédication qu'il faudrait, c'est une conférence, des conférences, mais j'aimerais juste aborder plutôt spécifiquement les questions d'autorité entre parents et enfants. Alors là, okay, encore, hein, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour en parler, mais je vais plutôt me situer dans cette période de relation d'autorité où les enfants, en fait, deviennent adultes. Comment vit-on cette transition, est-ce que les notions d'autorité entre les parents et les enfants changent à ce moment-là? Un petit peu quand même, entends-je. Nous prendrons pour ça quelques repères dans la Bible, parce qu'il ne s'agit pas là juste de faire une conférence philosophique sur ce que je pense ou sur ce que j'ai vécu, mais bien en fait sur ce que peut nous enseigner la Bible à ce sujet. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire deux mises en garde. Deux commentaires. Ce sujet est très lié, parfois, très lié à notre culture, comment nous avons été élevés, dans quelle situation nous avons vécu notre relation avec nos parents. Aussi, ce sujet peut être assez sensible. Peut-être certains d'entre vous seront un peu gênés ce que je partagerai avec vous ce matin. C'est possible. Ce sera peut-être pour vous juste l'occasion d'avancer dans votre réflexion, et peut-être au final vous ne serez pas d'accord avec moi. N'en soyez pas gênés. Une deuxième remarque, un peu plus grave, j'ai envie de dire. Il arrive que les relations familiales, pour certains, soient difficiles, voire toxiques, destructives, pour les parents ou pour les enfants. Dans ce que je vais vous partager ce matin, je n'aborde pas ces points-là. Je ne suis pas spécialiste et je n'y mettrai jamais les pieds comme ça. C'est bien trop grave, bien trop profond, les conséquences sont énormes. Et là, je reste dans un cadre, une famille équilibrée, entendons-nous, si ça existe, sans gros problème de relationnel entre les parents et les enfants. Quoi qu'il en soit, ce que je veux partager ce matin repose sur trois textes essentiels dans la Bible. On va commencer chronologiquement. Le premier se trouve dans les livres de la Genèse. Il est bien connu de tous. C'est au chapitre 2 de la Genèse, au verset 24. Genèse 2, verset 24. Il est écrit, donc c'est juste après la création, hein, que je vous situe le contexte. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc cette première base biblique remonte donc à la création, au tout début de l'humanité. Il y a là un fondement sur le passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte qui passe par le mariage. Le texte nous parle de l'homme, mais je pense qu'on ne trahira pas l'esprit du texte si on peut également englober la femme, évidemment, en disant que l'homme et la femme donc quitteront leurs parents et ils s'attacheront l'un l'autre pour devenir une seule chair, un couple, si vous préférez. Le fait de constituer un nouveau couple repose donc sur un prérequis, le fait de quitter son père et sa mère. Physiquement, c'est une évidence, mais le fait de quitter cette cellule familiale pour en créer une autre a d'autres conséquences en termes d'autorité et de lien d'autorité. Le nouveau couple devient une entité, à part entière aux yeux de Dieu. Et quitter les parents signifie évidemment se soustraire à leur autorité, telle qu'on la vivait avant en tant qu'enfant. Le couple devient donc autonome dans ses décisions, nécessairement. Ses choix de vie, c'est primordial. Je ne vais pas revenir avec vous sur toutes les histoires qui se racontent sur les belles-mères, par exemple, les blagues qui se racontent, mais il y a derrière un fond de vérité. Combien de problèmes familiaux dus à l'intrusion en fait, des beaux-parents dans la décision des couples ? Une mauvaise compréhension de ce qu'est le mariage et des conséquences qu'il a sur les relations d'autorité peuvent être vraiment dommageables pour la vie du couple lui-même, allant parfois jusqu'au divorce, si on n'a pas compris que les parents n'ont plus autorité sur les décisions du couple. Pour parenthèse, ces questions d'autorité ont donc des conséquences énormes dans notre vie. C'est le cas pour les relations avec les parents lorsque nous sommes mariés, mais c'est le cas dans bien d'autres circonstances. Et c'est pour ça également que je voulais aborder cette question avec vous, parce qu'une mauvaise compréhension de ces relations d'autorité que nous avons avec nos parents, un mauvais positionnement par rapport à ces relations, peuvent être dramatiques. Laisser des personnes interagir avec votre vie alors qu'ils n'ont normalement aucune autorité à le faire, aura des conséquences graves dans votre vie. Ne pas laisser des personnes interagir avec votre vie alors qu'ils ont autorité, dans certains aspects de votre vie, aura également des conséquences très graves dans votre vie. Ces questions sont vraiment essentielles. Mais revenons à notre histoire du mariage. Ce texte donc, de la Genèse nous enseigne, me semble-t-il clairement, qu'il y a un transfert d'autorité des parents vers la nouvelle cellule familiale. Juste pour un témoignage personnel, bon, ça me fait toujours un peu sourire, je ne sais pas si Lantine va sourire avec moi, lorsque nous avons emménagé à Fresnes, donc il y a de cela 3 ans, je pense, hein, nous avons évidemment fait visiter notre maison à nos parents, et donc mes beaux-parents également, le père et la mère de Léontine. Et nous avons chez nous un escalier en fait sur lequel il n'y a pas de rambarde. Et c'est vrai que c'est dangereux, clairement, je suis d'accord. S'il y a un enfant qui est là, il risque de tomber dans le vide, tout simplement. Mon beau-père me le fait savoir. Et je lui dis oui, c'est vrai, c'est dangereux. Il faudra faire quelque chose. Et puis il insiste lourdement. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'il veut que je lui dise oui, je vais le faire. Mais ce n'était pas possible pour moi. C'était pas possible. Il n'avait pas à m'imposer une décision qui revenait à Léontine et à moi, si Léontine rigole avec moi. Il ne pouvait pas m'imposer une décision, enfin nous imposer, pardon, une décision qui nous revenait. Même si j'étais d'accord avec lui, avec son conseil, évidemment que c'était dangereux. Je ne pouvais pas lui dire oui, je vais le faire. Bon, il a fini par le comprendre. Mais je pense que ça a mis aussi et ça a établi une certaine clarté dans nos relations. Et c'était important. ceux qui s'appuieraient sur le cinquième commandement, les parents qui s'appuieraient sur le cinquième commandement, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne, que ton Dieu te donne. » Si certains parents s'appuient sur ce commandement pour demander l'obéissance à leurs enfants, alors que leurs enfants sont adultes et font leur vie, je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce texte. Honorer ses parents ne signifie pas leur obéir. Littéralement, ça veut dire leur donner du poids. Ce commandement nous demande, au cours de notre vie, de reconnaître que nos parents nous ont apporté, leur rendre hommage, témoigner de ce que nous avons pu recevoir, de tout ce qu'ils ont fait pour nous, mais pas leur obéir. Ce texte ne nous dit pas ça. Ok, cette question du mariage donc fixe clairement un passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte en termes d'autorité par rapport à ses parents. Mais il ne nous parle pas d'âge. À l'époque de la rédaction de ce texte, évidemment, les gens se mariaient beaucoup plus tôt que maintenant. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, attendre le mariage pour s'affranchir de l'autorité de ses parents, entre guillemets, soit un bon timing. Les enfants restant beaucoup plus longtemps à la maison, d'autres questions se posent. On y reviendra. Deuxième texte. Il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. C'est l'épisode de Jésus au temple alors qu'il a 12 ans. C'est donc Luc, au chapitre 2, les versets 45 à 50. Et en fait, pour le contexte, c'est la Pâque juive. Et pour la Pâque, tous les Juifs étaient censés monter à Jérusalem pour la fêter ensemble. Donc les parents de Jésus, étant Juifs, montent à Jérusalem avec leur enfant, avec Jésus. Peut-être s'il y en a-t-il d'autres, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ils montent à Jérusalem pour fêter la Pâque. Ils fêtent la Pâque et ils reviennent. Et comme en fait tous les Juifs montaient à Jérusalem et revenaient chez eux, en fait ils le faisaient en groupe. Et il y a tellement de personnes que le texte nous dit que lorsque les parents de Jésus reviennent chez eux, ils marchent pendant une journée sans voir Jésus, mais ils ne s'en inquiètent pas. Ils se disent « bah il est avec des amis, quoi, il est avec d'autres personnes qui vivent là avec nous ». Et ils ne s'en inquiètent pas. Et à la fin de la journée, ils s'arrêtent et ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Alors ils reviennent chez eux. Et le texte dit « ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher ». Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. On récapitule, les parents de Jésus partent de Jérusalem pendant une journée. Ils font demi-tour, une journée en plus. Et ils le cherchent encore 3 jours à Jérusalem avant de le trouver. Il y a donc 5 jours que Jésus est séparé de ses parents. Et la seule chose qu'ils trouvent à leur dire est « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Il aurait quand même pu s'excuser. Il aurait pu s'excuser de ne pas être rentré avec eux, de ne pas s'être soucié, évidemment, de l'angoisse qu'ils allaient vivre. Il n'a que 12 ans. Que signifie donc cette réponse ? Dans ces circonstances, Jésus a décidé d'obéir non pas à ses parents terrestres, mais à son Père éternel, à son Père céleste. À 12 ans, il a donc fait un choix entre deux autorités auquel il était censé obéir. Et il a pensé que son père céleste était plus important que ses parents terrestres. L'enseignement est clair, encore une fois. Il y a dans la vie, pour chacun d'entre nous, un moment où nous sommes en mesure de penser et de choisir l'autorité divine comme étant plus importante que l'autorité parentale. S'il y a un conflit entre les deux, bien sûr, parfois jamais cette question ne se pose, et tant mieux. Mais s'il y a un conflit, et finalement, dans ce cas avec Jésus, les parents de Jésus ne sont pour rien, ils ne sont fautifs en rien. Et pourtant, il y a conflit pour Jésus. Alors vous me direz que cette priorité est évidente. Évidemment, en tant que chrétien, on se dit, bah oui, l'autorité de Jésus, enfin, et de Dieu est plus importante que n'importe quelle autre autorité. Peut-être. Encore faut-il que l'enfant ait conscience de cette différence, et qu'il soit en mesure de faire ce choix. Pour Jésus, c'est à 12 ans que cela se produit. Peut-être as-tu eu des choix à faire avant, mais on n'en parle pas. Mais bibliquement, clairement, le premier choix qu'il a fait, qu'il nous a raconté, c'est à 12 ans que ça se passe. Alors vous me direz que Jésus est un enfant particulier, certes. et qu'on ne peut pas prendre son exemple. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Le principe reste le même pour nous tous. Alors, peut-être pas à 12 ans, peut-être ce sera un petit peu après, peut-être un petit peu avant, je ne sais pas. Mais ce principe du choix d'autorité que nous aurons à faire se pose à chacun d'entre nous, et là je m'adresse en particulier aux enfants. Il revient à un moment donné aux jeunes de choisir. Pour référence, cette conscience en fait de cette volonté de Dieu, cette différence en fait qu'il y a entre le bien et le mal aussi, est située pour les juifs entre 12 et 13 ans. Ça correspond en fait à la bar mitzvah pour les garçons et à la bat mitzvah pour les filles. La bar mitzvah donc pour les garçons, qui est apparue à peu près au Moyen-Âge, a lieu à 13 ans. Et pour les filles, c'est un événement qui, par contre, qui est arrivé beaucoup plus tard, dans les années 50 seulement, du 20e siècle, 1950. La bat mitzvah, c'est plutôt à 12 ans. Et à partir de cet événement, donc, le jeune est considéré comme responsable de ses actes vis-à-vis de Dieu. Je le répète, le jeune devient responsable vis-à-vis de Dieu. Ils deviennent spirituellement matures, tout simplement. Et pour les juifs, cela signifie également une connaissance de la loi, évidemment, parce que la volonté de Dieu pour les juifs se situe essentiellement dans la loi. Dans le christianisme, on peut dire qu'il existe également d'autres repères. On aura la confirmation chez les catholiques, qui se situe à 15-16 ans, où là encore, l'enfant, ou enfin l'adolescent, comme on veut l'appeler, peu importe, est censé savoir faire la différence entre le bien et le mal. Et puis pour les évangéliques, pour les protestants, il y a le baptême. Et là, il n'y a pas d'âge. Ce passage, donc, évidemment, n'est pas anodin pour Dieu, parce qu'on se dit, voilà, j'ai compris quelle est la volonté de Dieu et je suis censé y obéir. L'autorité de Dieu dans ma vie devient importante. Alors j'aimerais, pour les jeunes en particulier, casser un fantasme, le fantasme de la liberté, qui nous est vendu sans arrêt par notre société. Parfois, on peut s'imaginer que, n'étant plus sous l'autorité de Dieu, eh ben, on est libre. Or, la Bible est claire, la liberté n'existe pas. La Bible nous dit, juste pour référence, si vous voulez travailler ce sujet plus tard, c'est dans Romains chapitre 6, verset 16, on ne va pas le lire, mais il y a plein d'autres passages qui en parlent. Soit nous sommes esclaves de nous-mêmes, de nos envies en fait, du péché, soit nous sommes esclaves de Jésus et nous lui obéissons. Mais la liberté telle que la société nous propose n'existe pas. La seule liberté que nous avons en réalité, c'est de choisir notre esclavage. Soit nous-mêmes, soit Jésus. Quoi qu'il en soit, la bar mitzvah, donc pour les juifs, la confirmation pour les catholiques ou le baptême pour les protestants, concerne dans tous les cas l'autorité de Dieu dans nos vies. Mais cela ne nous dispense pas de continuer à obéir à nos parents, le cas échéant. On y reviendra. Mais comme le montre cet épisode en fait de la vie de Jésus, Dieu devint pour cette personne l'autorité supérieure, l'autorité qui prévaut sur toutes les autres. Sa volonté passe au-dessus de toutes les autres volontés. Alors qu'avant, l'enfant était soumis à ses parents, il devient soumis à Dieu. Mais qu'en est-il si cet engagement donc en fait survient tardivement ? Il y a évidemment un moment, même si on ne s'engage pas, surtout pour nous, protestants, il y a un moment où nous devenons adultes. Et on ne peut pas demander à un jeune adulte et à un adulte de continuer à obéir à ses parents, même s'il ne s'est pas engagé vis-à-vis de Dieu, ça n'a pas de sens. On y reviendra. Voyons le troisième texte, qui est pour moi un fondement de ces questions d'autorité dans la vie d'un jeune qui devient adulte. C'est le bien connu également épisode des noces de Cana. Alors ce texte peut parfois être difficile à comprendre, mais en fait il est très clair. Il est juste surtout difficile à accepter. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 2, les versets 1 à 4. On parle donc du tout début du ministère de Jésus. Jean 2, les versets 1 à 4. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » On se demande bien si vraiment Jésus a répondu ça à sa mère. C'est vraiment raide. Jamais je me permettrais de parler comme ça à ma mère. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alors certains disent, bah oui, mais enfin à l'époque, les mots avaient une signification différente, ça ne voulait pas dire ça, c'est sorti du contexte, culturellement ça ne veut pas dire la même chose. Ben si. Dieu a dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus a maintenant autour de 30 ans, c'est le début de son ministère. Autant dire qu'à l'époque, c'est un homme fait. Aujourd'hui, une personne à 30 ans est déjà un adulte, mais à l'époque, c'était plus qu'un adulte. Un homme à 30 ans a normalement est déjà marié et a plusieurs enfants. Il a déjà commencé son ministère. C'est pas vraiment le début de son ministère, il a déjà commencé parce qu'il est accompagné de ses disciples. Il est donc déjà totalement sous l'autorité de Dieu, de son Père, avec un P majuscule pour son ministère. Sa mère, en demandant à Jésus à faire quelque chose pour ce vin qui manque, ne lui demande pas d'aller en acheter. N'importe qui peut aller acheter du vin. Et c'est pas à Jésus d'aller en acheter. Tout le monde peut le faire. La mère de Jésus, en lui demandant de faire quelque chose pour le vin, lui demande d'intervenir miraculeusement pour cette circonstance. Elle connaît Jésus. Elle sait à peu près qui elle est, même si elle n'a pas encore tout compris. Elle a entendu beaucoup de choses. Et elle sait qui est Jésus et elle lui demande de faire quelque chose, miraculeusement. En gros, elle lui demande de se découvrir, de se faire connaître comme étant un homme de Dieu, faisant des miracles, devant une assistance complète, publiquement. Et c'est bien là le sens de son intervention, parce que Jésus lui dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Donc on parle bien là d'un ministère miraculeux pour servir Dieu. Marie lui dit « Mais vas-y, interviens ». Tu es un homme de Dieu, tu peux faire beaucoup de choses. Et Jésus lui dit, non, mon heure n'est pas encore venue. Donc on se situe bien là, sur le ministère de Jésus. Jésus donc, par sa réponse, lui signifie clairement ceci. En lui disant, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il lui dit, tu as beau être ma mère, les décisions concernant mon ministère ne te regardent pas. C'est raide, mais c'est ça qu'il lui dit. Tu n'as plus de droit sur moi. Tu n'as pas plus de droit sur moi, sur cette question, qu'une autre personne. C'est à Dieu et à Dieu seul que j'obéis pour mon ministère. Là, Jésus pose clairement les limites de l'intervention et de l'autorité de sa mère dans sa vie pour son ministère. Tu n'as plus à intervenir comme tu viens de te le permettre. On reviendra sur cet épisode. C'est là un basculement que nous sommes tous appelés à vivre. Pas nécessairement en étant aussi raide que Jésus l'a été, moi je ne me permettrai pas. Mais tous nous sommes appelés à vivre ce basculement de l'autorité des parents vers l'autorité de Dieu. Soit en tant qu'enfant, nous devons devenir de l'enfant qui obéissait à ses parents à celui d'adulte qui décide de sa vie devant les hommes et devant Dieu. Et en tant que parent, ce basculement passe de l'état de parent qui dirige son enfant, à celui de parent qui quoi d'ailleurs? Conseille. Ce basculement n'est pas obligatoirement violent. Mais pour cela, encore faut-il en être conscient qu'il va survenir et qu'il est bon. Faut-il encore l'accepter? Mais cela peut prendre du temps. Alors concrètement, là on vient de passer trois textes, de voir ensemble trois textes bibliques qui parlent de ces questions d'autorité et de basculement de l'âge d'enfant à adulte. Au-delà de ces principes bibliques, comment peut-on les vivre? Alors les jeunes peut-être se disent aujourd'hui, chouette, hein, je vais pouvoir la diriger ma vie en dehors de l'autorité de mes parents, c'est cool. Et peut-être que les parents se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter à nos enfants là? Je suis persuadé que cette modification en fait de rapport d'autorité entre les parents et les enfants est indispensable évidemment, et je pense que vous le savez aussi, et que vous êtes d'accord avec ça. C'est une étape indispensable de la progression d'enfant vers l'état d'adulte évidemment. Et c'est donc ces trois passages bibliques abordent ce sujet sous différents angles. Il y a donc les conséquences du mariage par rapport à l'autorité des parents. Il y a l'obéissance à Dieu avant l'obéissance des parents, comme on a vu Jésus dans le temple. Et il y a aussi le fait de poser des limites si c'est nécessaire pour que les parents n'interviennent plus dans notre vie lorsqu'ils n'ont plus autorité sur ces périmètres. Ces trois passages sont vraiment structurants pour comprendre et vivre ce basculement. Mais les circonstances de vie maintenant sont vraiment très diverses et variées suivant les uns et les autres. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, il est vraiment très rare d'avoir un enfant qui devient autonome financièrement avant de devenir adulte. Il est rare qu'un enfant puisse pardon, il est rare qu'un jeune adulte puisse s'assumer matériellement avant d'avoir conscience du bien et du mal, avant d'être en mesure de faire ses choix également de vie. On est donc dans des situations où les parents ont chez eux leurs enfants devenus adultes. Comment vivre cette transition, ce passage dans ces circonstances particulières? Je ne vois qu'une solution. Que chacun prenne compte de cette dynamique des relations, de cette évolution dans ses relations d'autorité. Là, ça va moins rigoler peut-être. Pour les jeunes qui s'imaginaient pouvoir vivre leur vie tranquillement, en dehors de l'autorité des parents. En tant qu'enfant, vous étiez chez vous, chez vos parents. Spirituellement, vous faisiez un avec vos parents, parce que vous n'aviez pas la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Vous faisiez un au regard de Dieu avec vos parents. Comme adulte, ça change tout. C'est difficile à entendre, mais comme adulte, vous n'êtes plus chez vous, chez vos parents. Vous êtes chez vos parents. Alors peut-être qu'ils continuent à vous offrir le gîte, le couvert, peut-être plus encore. Peut-être qu'ils s'occupent encore de votre linge, peut-être de votre transport. Mais vous n'êtes plus chez vous. Spirituellement, vous n'êtes plus un avec vos parents. Au regard de Dieu, vous êtes vous-même un. Vous devenez donc autonome dans vos réflexions et dans vos choix, vos décisions. Le lien est coupé avec vos parents tel qu'il existait auparavant. Alors ce n'est peut-être pas le lien du mariage qui coupe ce lien que vous aviez avec vos parents, mais quoi qu'il en soit, il est coupé, il est différent. Comme enfant, vous obéissiez avec vos parents parce que vous étiez sous leur autorité, parce que vous étiez enfant et qu'ils étaient vos parents. Mais comme adulte, il vous faut choisir d'obéir à vos parents ou non. Comme vous n'êtes plus chez vous, chez vos parents, malheureusement, les règles chez vos parents sont celles de vos parents. Ils ont autorité chez eux. C'est important de le comprendre. Vos parents ont autorité chez eux. C'est leur périmètre. Cela ne devient plus votre périmètre. Cela ne signifie pas que la discussion n'est pas possible. Cela ne signifie pas que les parents vont devenir irascibles et intransigeants sur votre comportement. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais spirituellement, vous n'êtes plus maître chez vous. Vos parents ont autorité chez eux. Je vous laisse méditer sur les multiples implications que cela peut entraîner. Pour les parents, en tant que parents de jeunes adultes, il n'est plus possible de les traiter en enfants. C'est vous, en tant que parents, vous n'avez plus, je parle vous parce que pour moi ce n'est pas encore le cas, mais vous n'avez plus autorité sur tous leurs choix comme vous l'aviez avant. Il y a donc un minimum de lâcher prise qui s'impose. C'est peut-être difficile pour certains, assurément. Cela ne signifie pas non plus que vous devez tout accepter de vos enfants. Surtout s'il s'agit de comportements que vous jugez inacceptables. Mais quoi qu'il en soit, vos enfants deviennent en partie maîtres de leurs décisions. Pour exemple, en fait, j'ai déjà connu une famille de chrétiens qui acceptait que leur fils, non chrétien par ailleurs, non engagé, venait avec sa copine coucher à la maison. Que leur enfant choisisse d'avoir des relations sexuelles avec sa copine avant le mariage, alors même qu'il ne voulait même, enfin, il ne parlait même pas du mariage, c'est son problème. Spirituellement, il est grand, il fait ses choix. Spirituellement, il est face à Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais que ses parents acceptent que cela se fasse chez eux, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'avaient pas à accepter. Que l'on comprenne bien en fait la dynamique qui existe après, quand l'enfant devient adulte, entre les parents et les enfants. Chacun prend sa décision. L'enfant fait quelque part ce qu'il veut dans ce domaine, mais il n'a pas à le faire sous le toit des parents si les parents ne sont pas d'accord. Parce que, encore une fois, les parents ont autorité chez eux. Alors, il y a après cela un certain nombre de ce que j'appellerais dysfonctionnements. Il y a un certain nombre de situations difficiles entre les parents et les enfants. Et souvent, certains sont basés sur cette mauvaise compréhension qu'il y a entre les liens d'autorité qui existent entre les parents et les enfants qui sont devenus adultes. La tentation existe probablement des deux côtés, aussi bien des parents que des enfants, de rester dans cette situation, dans cette relation parent-enfant, alors quand l'enfant est devenu adulte. Quelque part, c'est confortable. Ça fait perdurer une situation qui a structuré la famille pendant des années. Chacun peut y trouver son compte. Mais il est primordial pour le développement de l'enfant, pour le développement spirituel et personnel, que cette situation ne perdure pas. L'enfant doit comprendre qu'il devient autonome et maître de ses décisions. Les parents doivent comprendre que pour certains aspects de sa vie, l'enfant devient autonome et maître de ses décisions. Alors pour conclure, depuis le début, vous avez remarqué peut-être que je n'ai pas posé de limite d'âge ou de temps particulier pour définir ce passage de l'enfant au jeune adulte. C'est volontaire, pour moi, il n'y a pas de règle en la matière. Les Juifs le situent à 12 ans pour la fille, 13 ans pour le garçon. Moi, je ne veux pas mettre de limites ou de barrières fixes, ce n'est pas une règle. Mais ce qui est certain, c'est que cela doit se produire pour chacun de nos enfants. Vous l'avez donc en fait compris, c'est une prise de responsabilité des enfants de leur nouveau statut et une acceptation des parents du nouveau statut de leurs enfants qui permet de vivre cela. Chacun y a un rôle. Évidemment, il me faut le préciser pour non pas arrondir les angles, mais pour équilibrer un petit peu la question. La relation de parent à enfant n'est pas basée que sur des relations d'autorité, n'est pas basée que sur des relations de périmètre de décision. Et pour, encore une fois, équilibrer le tableau, il me faut revenir sur certains de ces textes que nous avons vus ensemble. La suite de l'épisode de Jésus avec ses parents, lorsqu'il était dans le temple, avec les maîtres de la loi. Il est écrit au chapitre 2 de Luc, au verset 51-52, puis il descendit avec eux, donc Jésus finalement revient avec ses parents, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il est évident que même si Jésus avait compris qu'il avait une autre autorité que ses parents au-dessus de lui, qu'il avait son père à qui il devait également obéir, ça ne signifie pas qu'il n'obéissait plus à ses parents. Également, dans cet épisode des noces de Cana, où Jésus parle très durement à sa mère, il me plaît de continuer ce texte, et quelque part ça me fait vraiment sourire parce que c'est plein d'ironie. Jésus lui répondit donc à sa mère: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: Faites ce qu'il vous dira. Marie vient de se faire rabrouer, mais avec une violence terrible, quelque part. Et qu'est-ce qu'on y voit? Une réaction de mère. Une réaction de mère dont l'amour pour son fils dépasse tout. Marie a juste pour réaction: D'accord, je comprends ce que tu veux me dire, mais moi je sais que tu peux faire quelque chose. Et elle dit juste aux gens: Bon allez, faites ce qu'il vous dira. Jésus a beau marquer quelque part une limite, elle l'aime trop, elle n'en a rien à faire, elle va au-delà. Elle dit aux gens: Faites ce qu'il vous dira. Je trouve vraiment cette réaction de Marie plein d'amour et plein d'ironie. Et puis un dernier texte qui est aussi très important pour comprendre ce qu'est la relation entre Jésus et sa mère, c'est vraiment aux derniers instants de la vie de Jésus sur la croix, dans l'évangile de Jean au chapitre 19 et au verset 25 à 27. Donc Jésus est déjà, non pas attaché, mais cloué sur la croix. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc il s'agit de Jean, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors que Jésus est sur la croix et alors qu'il est en train d'agoniser, on pourrait croire qu'il a vraiment bien d'autres choses à penser qu'à sa mère. Et pourtant, il a une pensée pour elle. À l'époque, les personnes âgées, et en particulier les veuves, parce qu'a priori Marie était veuve, en fait, vivaient soutenues financièrement, enfin matériellement par leurs enfants. Et Jésus va mourir. Marie n'a peut-être plus de soutien pour elle. Alors, ce que fait Jésus? Il confie sa mère à son disciple Jean. Et il recrée ce lien mère-fils entre Marie et Jean. Dans son agonie, Jésus une des dernières pensées de Jésus est pour sa mère bien-aimée quelque part, c'est évident, pour que quelqu'un puisse prendre soin d'elle. Souci d'un homme qui aime sa mère tendrement. En effet, les questions que nous avons vues ce matin, les questions d'autorité, de périmètre de décision, n'annulent en rien les relations entre de tendresse, d'amour, d'attention qui unissent les parents à leurs enfants. C'est le moteur de la vie familiale. Ces sentiments ne disparaissent jamais avec l'âge. Même s'ils se modifient, même s'ils se transforment, ils ne disparaissent jamais. Toutefois, cela ne change malgré tout rien à ce que nous venons de partager ce matin au sujet de ces questions. Ma prière est vraiment que Dieu nous donne du discernement à nous parents ou à nous enfants pour que nous puissions développer entre nous des relations familiales constructives et pertinentes aux yeux de Dieu. Amen.